Je vais intervenir donc sur le thème des cités-jardins et en particulier sur la question de l'harmonie qu'elles ont tenté d'instaurer entre la ville et la nature. Alors, conçues pour offrir un cadre de vie alternatif aux populations urbaines qui habitent dans les métropoles à l'air vicié et au logement insalubre de la fin du XIXe siècle, la Garden City a été théorisée à la fin des années 1890 par un Anglais qui s'appelle Ebenezer Howard. Et cette théorie a été mise en pratique à Letchworth, qui se situe à quelques kilomètres de Londres, quelques années plus tard, donc au début du XXe siècle. Et elle n'est pas, selon son concepteur, donc Ebenezer Howard, une utopie urbaine ou plutôt anti-urbaine de plus, mais bien un contre-modèle urbain et un projet socio-économique réaliste et réalisable, et qui ambitionne le rapprochement de deux notions apparemment antithétiques, la ville, donc signifiée par le terme ici city, et la nature, signifiée par le terme garden. Alors ce rapprochement, cette proximité au sein de l'expression Garden City suggère d'emblée la volonté de créer ou de recréer une relation étroite entre deux milieux nettement différenciés. Alors peut-on dès lors employer le mot harmonie pour qualifier cette relation? Et d'ailleurs, qu'entend-on par harmonie? Alors, accord bien réglé entre les parties d'un tout, si l'on s'en tient à la définition du dictionnaire, elle peut également être définie, si on l'applique à l'espace urbain, par, je cite là, Bernard Gauthier, qui est l'auteur de l'ouvrage Vocabulaire et morphologie de l'espace urbain, donc définie par le caractère apaisé et équilibré provoqué par un ordre, un rapport d'échelle, une nature et une disposition adéquate des constituants de l'espace urbain en fonction d'une esthétique urbaine donnée, planifiée ou perçue. Alors, les cités-jardins, une harmonie entre ville et nature, la réponse à la question est à chercher, donc ça sera l'objet de ma première partie, dans les intentions de son concepteur. Donc, dans cette première partie, je présenterai la théorie howardienne, donc forgée dans l'Angleterre de la fin du règne de Victoria, règne au cours duquel l'Angleterre donc est devenue la première nation urbanisée. Quel type de territoire propose Howard? Est-ce finalement un territoire ni ville ni campagne? Est-ce autre chose? Donc, on le verra. Dans un deuxième temps, j'examinerai la façon dont a été perçue ce modèle lors de son importation en France en 1904, et comment la cité-jardin, c'est de cette façon qu'elle a été traduite, entre en résonance avec la réflexion engagée à cette époque, au début du XXe siècle, par les réformateurs sociaux, réflexion engagée donc sur les questions de l'amélioration des conditions de vie des classes populaires et réflexion sur l'aménagement rationnel de la croissance urbaine. Donc les relations entre la ville et la nature, donc réalité qui est plurielle, hein, puisqu'elle dépasse, elle ne se réduit pas au terme de jardin, constitue donc un thème majeur de cette réflexion et qui est en fait à restituer plus globalement dans l'histoire des débuts, dans l'histoire de l'émergence de l'urbanisme français. Enfin, après les discours et les déclarations d'intention, les faits, comment cette harmonie a-t-elle résisté à l'épreuve des réalisations? Donc, ça sera l'objet de ma dernière partie, dans laquelle je présenterai quelques exemples de réalisations françaises, alors en m'appuyant en fait essentiellement sur le corpus constitué par les réalisations par les cités-jardins aménagées des années 20 aux années 50 par l'Office public d'habitation à bon marché du département de la Seine à l'initiative du socialiste Henri Sellier. Alors, première partie. La Garden City d'Ebenezer Howard, un territoire ni ville ni campagne, point d'interrogation. Alors, l'émergence du concept s'inscrit dans la continuité de la réflexion engagée en Angleterre et d'ailleurs ailleurs en Europe, dès le début du XXe siècle, sur les carences de la civilisation urbaine, dénoncées entre autres par les owenistes en Angleterre et par les fourriéristes en France. Cette dénonciation qui donne lieu à la proposition de sociétés utopiques, mais qui va donner lieu aussi à des réalisations, mais qui se soldent souvent par des échecs, est relayée en Angleterre à partir des années 1890 par le mouvement Arts and Crafts, qui littéralement veut dire art et artisanat, animé entre autres par Pugin, John Ruskin ou William Morris, qui dote ce discours anti-urbain jusqu'ici centré sur des réflexions d'ordre socio-économique d'une dimension plus esthétique. Et la réhabilitation du travail manuel et des techniques traditionnelles s'accompagne en effet dans ce mouvement d'une réflexion sur la possibilité d'un cadre de vie idéal qui réinstaurerait le contact bienfaisant avec la nature et la campagne, dont l'architecture et l'urbanisme devraient inspirer les principes d'aménagement des nouvelles communautés. Alors le concept de Garden City, en fait, Howard synthétise en fait et combine en réalité de façon assez inédite un certain nombre de propositions formulées par les réformateurs de l'époque qui tentent de trouver donc des solutions aux maux engendrés par la grande ville et en intégrant aussi tous les apports de la réflexion qui s'est engagée en Angleterre depuis le début du 19e, une réflexion politique, esthétique, mais aussi hygiéniste, engagée donc même depuis le 18e siècle avec le courant aériste. Alors, le concept de Garden City a été mis au point par Ebenezer Howard. Qui est Ebenezer Howard? C'est le fils d'un commerçant né à Londres. Il est publiciste et il élabore son projet de communauté idéale après avoir séjourné de 1871 à 1876 aux États-Unis, où il s'installe d'abord comme fermier dans l'État du Nebraska, puis à Chicago. Il revient à Londres et il devient rédacteur des rapports officiels du Parlement et décide de se consacrer à la question sociale. Et en se joignant à des groupes de discussion et de lecture connus sous le nom de Zethetical Society, où l'on débat de l'actualité économique et politique. Il prend conscience du phénomène de taudification des centres-villes, où s'entasse une population pauvre. Bon, ça, c'est un petit peu l'exemple qui circule à cette époque. Donc la replantation de la grande ville dans les années 1870. Donc population pauvre qui a dû quitter les terres agricoles accaparées par de puissants propriétaires. Donc c'est dans ce contexte que Howard conçoit... Au début, dans les années 80-90, le modèle de Garden City. Il présente ce modèle en 1898 dans un opuscule intitulé Tomorrow, a peaceful path to real reform, qui est réédité à Londres en 1902 dans une version plus grand public sous le titre Garden Cities of Tomorrow. Alors, donc, il constate que l'effet de concentration de l'économie capitaliste dans les grandes villes a produit de graves inégalités sociales, source de conflits entre le travail et le capital, aggravés par l'exode rural. Donc, il suggère de refonder l'ordre urbain, et un ordre urbain qui sera fondé sur la combinaison des forces d'attraction de la ville et de la campagne au sein donc d'une communauté modèle, la Garden City. Alors, il présente donc sous la forme de schéma l'organisation de cette Garden City. Alors, cette combinaison des forces d'attraction est explicitée sous la forme d'un schéma, donc ici intitulé The Three Magnets, donc les trois aimants, qui synthétise en fait les inconvénients et les avantages de la ville et de la campagne sous la forme de mots-clés qui recyclent, c'est en anglais, qui recyclent un certain nombre de reproches adressés à la grande ville, donc depuis au moins le début du 19e. Donc cette critique n'est évidemment pas du tout inédite. Donc on a d'un côté, donc premièrement, la ville qui représente le dynamisme économique et culturel, c'est le lieu de l'emploi, des lieux de distraction. Elle se distingue également par la qualité de ses espaces publics. Les rues y sont bien éclairées, les édifices somptueux, mais donc les dysfonctionnements, les carences l'emportent sur ses avantages, puisque les nombreux lieux de distraction ne doivent pas cacher l'isolement de l'individu dans la foule. La grande ville, donc ça c'est un grand principe de discours anti-urbain, exerce une influence négative sur les corps. Elle génère une fatigue physique due aux longues journées, aux déplacements, étant donné les loyers élevés, les gens doivent habiter assez loin du centre-ville. Fatigue physique due aux mauvaises conditions de logement, aussi à l'air vicié, pollué, et condamnation d'ordre moral, la ville est présentée comme le temple du vice. La campagne fait naturellement l'objet d'une description plus favorable. Elle est décrite par Howard en ces termes. La campagne nous offre de beaux panoramas, des parcs seigneuriaux, des bois parfumés de violettes, de l'air pur, des murmures d'eau courante. Donc l'enjeu de la cité-jardin pour Howard est d'organiser le rapprochement de l'homme avec la terre, plus précisément. Cette terre, je cite, si belle, qui est notre bien, sous l'immense dais du ciel, dans ses fraîches brises, le soleil qui la réchauffe, la pluie et la rosée qui la fertilise, véritable incarnation de l'amour de Dieu pour l'homme. Alors, elle n'est cependant pas parée de toutes les vertus, tout de même. Je cite encore, le temps y paraît long, les distractions manquent, le beau soleil et l'air pur ne suffisent pas à réjouir le cœur des hommes. Donc, évidemment, aux occupations de la grande ville sont opposés le manque de distraction, un niveau de vie moins élevé, le chômage, l'impossibilité pour les ruraux de profiter des grands domaines seigneuriaux privés, une certaine désertification et également des conditions de vie peu satisfaisantes. Donc, il s'agit d'opérer une synthèse harmonieuse, employons le terme, de la ville et de la campagne pour en faire un contrepoint vraiment à la grande ville. Alors, donc ce troisième aimant est donc la réunion des avantages des deux autres, qui s'appelle ici « Town Country ». Howard décrit ensuite plus précisément l'organisation de sa cité, de sa Garden City. Donc, il propose en fait d'aménager des entités autosuffisantes qui sont amenées donc à... qui l'oppose donc en fait à la métropole centralisée. Donc il propose de répartir la population donc au sein de ces unités autosuffisantes de taille réduite, puisqu'il prévoit que ces entités ne seront habitées que par 32 000 habitants, et dont le développement sera maîtrisable grâce à une densité donc de population réduite et une spéculation surtout foncière empêchée par la propriété collective du sol, dont les revenus sont redistribués au bénéfice de la communauté. Donc là, on a toute l'influence des idées qui circulent à cette époque, des idées des économistes sur la jouissance du sol. Donc il les revendique d'ailleurs, ces références, comme Thomas Spence, Hubert Spencer, ou les idées de Pierre Kropotkin ou d'Henri George. Dans un autre schéma, il précise donc l'organisation de cette Garden City. Donc ce schéma intitulé The City and the Rural Belt donne à voir l'organisation de la partie agricole. Alors sur les 2400 hectares du domaine, donc qui correspond à une ville de province française, la partie urbaine couvre une superficie de 600 hectares, soit le sixième de la propriété. Alors ici, on a une description plus fine de la ceinture agricole, qui a une fonction majeure, évidemment, puisqu'elle permet l'approvisionnement de la cité en produits agricoles, et donc c'est elle qui permet l'auto-subsistance. Les exploitations sont variées en fonction du type de culture. On y trouve des pâturages, des grandes fermes, des plus petites exploitations, donc en fonction du type de culture, et aussi des lopins de terre donnés en location. Elle est aussi le lieu, cette ceinture agricole, des institutions qui ont besoin du contact direct avec la nature. Donc, lieu de la régénérescence physique et morale, elle offre un cadre propice à la guérison et donc aux établissements de santé. Donc, on y trouve des instituts pour sourds et muets, des maisons de convalescence ou des établissements pour épileptiques. Elle est également le lieu idéal pour l'apprentissage des techniques agricoles. Elle accueillera par exemple les écoles professionnelles. On y trouve aussi les sites d'exploitation des matériaux locaux, comme les tuileries qui serviront à la construction des maisons, et évidemment les bois destinés à la promenade et à la détente. Des mesures favorisant ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement durable sont aussi envisagées pour éviter toute pollution. Donc le recyclage des déchets de la partie urbaine est assuré par la partie agricole. Et le problème des fumées toxiques, donc ça c'est la grande dénonciation à l'époque, parmi vraiment les maux de la grande ville, se situent les fumées toxiques dégagées par la ville industrielle. Ici, le problème est réglé par l'installation d'un système de production électrique. Autre schéma qui détaille là la partie urbaine, qui est intitulé The Ward and the Center. Donc ce schéma de la partie urbaine, donc c'est la partie la plus dense, et c'est la partie où se situent les habitations, montre que Garden City donc est conçu selon un plan basé sur un zoning concentrique. Il y a 6 avenues circulaires qui recoupent des boulevards rayonnants et qui délimitent donc les quartiers, eux-mêmes divisés en îlots d'habitations qui formés par des rues parallèles au boulevard. Alors dans son opuscule, Howard prône la variété architecturale pour les habitations, et donc en ce sens il fait implicitement référence au mouvement Arts and Crafts, qui ne cesse de critiquer d'ailleurs l'alignement monotone des façades toutes semblables qui sont caractéristiques des grandes villes du 19e siècle. Alors le centre, vous le voyez, est un vide occupé par un jardin autour duquel sont disposées les principales institutions civiques et culturelles. Et entre l'anneau d'équipement et la 5e avenue, on trouve ce que Howard appelle le Central Park. Donc évidemment, référence explicite au Central Park de New York. Et cernant ce jardin, le Crystal Palace, là aussi allusion au Crystal Palace de l'exposition universelle de 1851, forme une galerie vitrée qui abrite des commerces et qui sert également de jardin d'hiver. Alors, la Grande Avenue, qui correspond à la 3e avenue en partant des limites extérieures, mesure 128 mètres de large. C'est une voie de circulation en même temps qu'un parc de 46 hectares. C'est marqué Grand Avenue. Et elle fait allusion aussi ici au système au Parkway de Olmsted aussi, qui avait aménagé Central Park. Donc là, voilà, des emprunts à différentes références architecturales et urbaines admirées par Howard. En bordure de l'avenue prennent place les autres équipements scolaires et religieux, donc on voit des écoles ou des églises dignes d'une grande ville. Et les habitations le long de cette grande avenue sont disposées en crescent. Là aussi, on a une allusion au Royal Crescent de Bath, réalisé dans les années 70 sur les plans de l'architecte John Wood le Jeune. Un dispositif qui permet en plus d'augmenter la superficie de la voie. Une zone industrielle est aménagée en périphérie de la partie urbaine. Elle est située entre la première avenue et le chemin de fer circulaire, qui est destiné en fait à gérer le flux de matières ou de produits finis fabriqués par les usines, produits qui sont acheminés par des connexions sidings, entre ce chemin de fer circulaire et la principale voie ferrée de Garden City, qui s'appelle la Main Line Road. Alors, donc, ce noyau urbain est très circonscrit. La partie urbaine donne à voir une notion, enfin, on a une notion de limite nette entre la partie urbaine et la partie agricole. Et cette notion de limite nette et de noyau urbain très circonscrit fait référence aussi à la conception de la ville défendue par le mouvement Arts and Crafts, qui nourrit une certaine nostalgie pour les villes pré-industrielles, les villes médiévales, où les deux milieux étaient bien différenciés. Cette voie ferrée dont je viens de parler permet également, dans le schéma théorique d'Howard, de relier entre elles les autres cités-jardins qui seront construites. En fait, lorsqu'une cité-jardin aura atteint le chiffre maximal de 30 000 habitants, c'est-à-dire 30 000 habitants pour la partie urbaine et 2 000 agriculteurs, 32 000 habitants, pourquoi ce chiffre d'ailleurs? Parce que au-delà, Howard estime que l'autosuffisance alimentaire n'est plus assurée. Donc, lorsque une cité-jardin aura atteint ce chiffre, une autre communauté devra être créée à proximité selon les mêmes modalités. Donc, c'est ainsi que Howard propose la création d'une centrale city, donc de 58 000 habitants, entourée de six cités satellites, chacune disposant d'une ceinture agricole, et dont chaque cité satellite aura 32 000 habitants. Alors, s'il s'est construit en opposition et en contrepoint à la grande ville, donc sur un discours largement anti-urbain, le concept de cité-jardin howardienne ne rompt pas avec l'urbanité. Certes, grâce à sa ceinture agricole et son propre réseau ferré, elle n'a plus de lien de dépendance avec la grande ville. Donc, il ne s'agit pas du prolongement tentaculaire de la métropole, mais il ne s'agit pas pour Howard de rejeter en bloc tout l'héritage urbain. D'ailleurs, au contraire, comme le montre Stephen Chambers, il ne s'agit pas chez Howard de re-réaliser la ville et d'urbaniser la campagne. L'objectif est en effet exactement le contraire, d'urbaniser la ville et de re-réaliser la campagne. Alors que dans l'historiographie ou dans les projets qui ont été réalisés en prenant comme référence les cités jardins, souvent été associée à la faible densité. En fait, la partie urbaine proposée par Howard est dense. Il s'agit d'une ville compacte, puisqu'il y a sur les 1000 hectares, donc environ 4, sur les 1000 ares, environ 400 hectares, sont habités par 30 000 habitants. Donc, ça fait à peu près 80 habitants à l'hectare. Et en plus, comme le montre Chambers, le tissu urbain décrit par Howard prend pour référence implicitement, en plus, celui de Londres. La taille des parcelles, en fait, est comparable à celui de la capitale anglaise. En fait, la densité des équipements, en plus, est digne d'une grande ville. Donc, Howard entend remettre en valeur, réhabiliter deux fonctions urbaines importantes pour lui, la ville comme centre économique de production et comme lieu d'expression civique. Alors, où se situe l'harmonie dans ce concept de Garden City howardienne? Dans les liens de dépendance mutuelle entre la partie agricole et la partie urbaine, et formellement, visuellement, dans les dispositifs architecturaux et urbains, elle est à l'œuvre donc dans la partie urbaine, puisqu'on a vu que les maisons étaient disposées le long d'avenues largement plantées. Enfin, il y a une répartition équilibrée entre les espaces construits et les espaces libres et qui sont végétalisés. Alors, un an après la publication de cet ouvrage, Howard crée la Garden City Association pour lancer une réflexion collective sur les possibilités de passer à l'acte une Garden City. Alors, deux conférences sont organisées en 1901 et 1902 pour réunir les adhérents. La première a lieu à Bourneville et la deuxième à Port Sunlight. Alors, c'est important parce que c'est un choix qui n'est pas anodin. Ce sont deux cités ouvrières modèles. Donc ici nous avons Bourneville toutes les deux ont été aménagées à la fin du 19e siècle respectivement à proximité de Birmingham pour Bourneville par le chocolatier Cadbury et Liverpool par le savonnier Lever, Port Sunlight à côté de Liverpool par Lever. Et d'ailleurs, ces deux industriels sont impliqués, participent aux réunions du Garden City Movement. Et donc, ces réalisations marquent en fait une étape décisive dans le mouvement européen de réflexion sur l'aménagement urbain et les conditions de logement des catégories sociales les plus défavorisées. Sur le plan formel, elles héritent de toute la tradition paysagiste anglaise et sur le plan social, de la pratique de quelques patrons éclairés de la révolution industrielle désireux d'offrir des conditions de vie et de travail satisfaisantes à leur main-d'œuvre. Alors, elles se distinguent nettement des cités ouvrières anglaises. Par l'intégration des faits pittoresque, on définira ce terme plus loin. Donc pittoresque par des voies sinueuses, par la prise en compte de la topographie, intégration d'éléments paysagers avec l'importance des plantations d'alignement et évidemment de nombreux espaces publics voués à la détente, aux loisirs, donc des parcs, des jardins publics. Donc c'est en ce sens qu'elle se distingue des autres sociétés ouvrières. Donc ces réalisations influencent l'urbanisme anglais, mais aussi évidemment l'aménagement de la première cité-jardin anglaise. Alors elle est appelée, cette première cité-jardin anglaise, Letchworth. Alors Letchworth a été dessinée sur les plans des architectes Raymond Unwin et Barry Parker, qui remportent le concours lancé en 1904 par la First Garden City Limited. Donc, c'est une entreprise créée en 1903 avec un capital de 300 000 livres. En 1903, 1545 hectares avaient été acquis au lieu dit de Letchworth, à 50 km au nord de Londres. Et donc ce sont ces deux architectes qui vont remporter le concours. Donc le plan de Letchworth, publié dans les années 20, il a été publié en France avant, montre bien les grands principes mis en place par Howard. Le plan de Letchworth, on le voit, est marqué par la recherche en fait d'un équilibre, d'une volonté de concilier une composition de type beaux-arts. Donc on a des voies régulières, même une composition en pas de doigt qui représente en fait le centre de la ville. Donc tenter de concilier voilà cet aspect assez urbain dans la manière d'aménager l'espace public et la volonté d'aménager les voies résidentielles selon des courbes assez d'intégrer la sinuosité dans l'aménagement des zones résidentielles. Et c'est un dispositif donc préconisé par l'architecte urbaniste autrichien Camillo Sitte, dont la réflexion sur l'urbanisme pittoresque a influencé évidemment les réalisations anglaises et françaises. Nous l'évoquerons plus loin. Donc le plan a respecté les principaux éléments de la théorie de Howard, comme je le disais, aménagement d'une zone industrielle, d'une zone agricole et évidemment de nombreux espaces libres occupés par des jardins ou des parcs et la création d'institutions communautaires. J'en viens à ma deuxième partie. Alors, la réception de la Garden City en France, deux points, de la cité jardin à la banlieue jardin. Alors, c'est à l'hiver 1902 que, à l'occasion d'un cours d'économie sociale donné à la faculté de droit de Paris par l'économiste français Charles Gide, que Georges Benoît Lévy, alors étudiant, prend connaissance du modèle théorique howardien et il apprend également que cette ville, que cette théorie va être mise en œuvre à quelques kilomètres de Londres. Donc il se procure un exemplaire de Garden Cities of Tomorrow, il en fait un compte-rendu très enthousiaste dans le bulletin de la Société française Les Habitations à Bon Marché. Alors les événements s'enchaînent ensuite rapidement. Grâce au réseau et à l'entregent de son oncle Edmond Benoît Lévy, il est introduit au milieu de la nébuleuse réformatrice. Ce sont tous ces réformateurs sociaux qui se préoccupent des questions d'amélioration des conditions de vie et du plan d'extension des villes. Donc en juin 1903, il obtient une bourse du musée social. Alors le musée social, je vais peut-être rappeler quelle est cette institution. C'est donc une institution fondée en 1894 par le comte de Chambrun et qui réunit des personnalités d'horizons divers, des protestants, des catholiques libéraux ou sociaux, des socialistes, des républicains conservateurs ou des radicaux et qui partagent la même volonté de trouver des réponses aux dérèglements sociaux provoqués par la révolution industrielle. Donc il obtient une bourse pour aller visiter les villages industriels de Bourneville et de Portsenheim puisqu'à cette époque-là, Letchworth n'est pas construite, il ne peut assister qu'à la cérémonie d'inauguration du chantier. À son retour de mission, donc, il fonde l'Association des cités-jardins de France, qui est une structure d'études et de propagande et qui est aussi dessinée un petit peu comme... c'est un peu le pendant de la Garden City Association d'Howard pour essayer de lancer des initiatives pour pourquoi pas aussi créer des cités-jardins en France. Il publie donc La Cité-Jardin, donc compte-rendu très enthousiaste de son séjour outre-Manche. Alors la couverture est due à Victor Prouvé, donc le dessinateur, l'illustrateur qui appartient au mouvement Art Nouveau, qui réalise la même année d'ailleurs la toile, je ne l'ai pas mise ici en illustration, La joie de vivre, qui est présentée à l'exposition des arts décoratifs de Nancy et qui représente de la même manière des parents, des grands-parents s'embrassant, s'enlaçant dans un cadre champêtre, sous un arbre. Donc dans ce compte-rendu d'enquête de Bourneville et de Portsenheim, il traduit également les schémas d'Howard. Donc on a la version française des schémas montrés juste avant. Et il ne visitera en fait Letchworth que 7 ans plus tard, lorsqu'il obtiendra une nouvelle bourse du musée social. Donc il repartira en Angleterre et il fera le compte-rendu de son enquête dans la réédition de la Cité Jardin, donc là en 3 volumes. Là, la Cité Jardin de 1904 était en un seul volume. Donc il augmentera sa deuxième édition de l'enquête de Letchworth et il remettra à jour ses données sur Bourneville et Porton Light. Alors en fait, la Cité Jardin arrive à point nommé, c'est ce que je disais dans le débat, sur l'aménagement rationnel des banlieues et de l'amélioration des conditions de vie des classes populaires. Le milieu réformateur français est donc très réceptif au modèle howardien, qui est accueilli au moins au début très favorablement. Parce que comme en Angleterre, on a une dénonciation de la grande ville depuis le début du 19e, on a une dénonciation vraiment symétrique dans les deux pays. Donc depuis le milieu du XIXe siècle, s'est constituée une littérature de dénonciation des tares de la grande ville, et en particulier de la ville donc née de la Révolution industrielle. Les réformateurs sociaux donc sont sensibles à la condamnation de la grande ville que la Cité Jardin sous-tend. Donc dans les publications qui circulent à cette époque qui traitent de la question de la réforme urbaine, est souvent d'ailleurs cité le fameux passage de l'Émile ou de l'éducation de Rousseau, qui est une référence vraiment fondatrice de l'urbaphobie en France. Passage donc publié dans l'Émile ou de l'Éducation de 1762. Donc je vous rappelle ce passage. Les hommes ne sont point faits pour être entassés en fourmilières, mais épars sur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. Les infirmités du corps ainsi que les vices de l'âme sont l'infaillible effet de ce concours trop nombreux. L'homme est de tous les animaux celui qui peut le moins vivre en troupeau. Des hommes entassés comme des moutons périraient tous en très peu de temps. La laine de l'homme est mortelle à ses semblables. Cela n'est pas moins vrai au propre qu'au figuré. Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine. Donc ce discours fondamentalement anti-urbain de l'époque est construit selon une rhétorique donc assez typique, qui utilise volontiers les ressorts du pathos pour émouvoir, pour alerter le lecteur. La grande ville est comparée à l'enfer sur terre, à un gouffre sans fond, donc où on reprend l'image développée par la métaphore développée par Rousseau. Elle est souvent, même quasiment tout le temps, comparée à une ville pieuvre depuis la publication par le poète belge Émile Verhaeren en 1895, intitulé donc Les villes tentaculaires, un poème qui décrit donc voilà qui stigmatise la croissance sans fin des grandes villes au-delà de leurs limites historiques et administratives. Donc cette image d'ailleurs de la ville pieuvre devient vraiment est très en vogue et devient un poncif du discours urbaphobe qui persiste au moins jusque dans les années 30. Alors les grandes villes, donc on retrouve les mêmes dénonciations que celles faites en Angleterre à la même époque. Les grandes villes, et en particulier les centres-villes, présentent un tableau catastrophique: insalubrité, pollution, air vicié, surdensité, entassement des populations dans des taudis infects. On critique évidemment les conditions d'ensoleillement, d'aération, situation en plus aggravée par la disparition progressive des espaces libres. La grande ville n'est pas seulement congestionnée et sale, elle aligne ses édifices sans style le long de rues toujours semblables. Alors cette dénonciation de l'uniformité et de la banalité de l'architecture et des formes urbaines du 19e siècle, et en particulier celles générées par l'haussmannisme, on la retrouve sous la plume de Jeanne Hénard ou de Georges Bonnolivy, évidemment. Alors, l'homme souffre d'autant plus de vivre au sein de cet environnement complètement artificiel qu'il fait lui-même partie du monde de la nature auquel il a été arraché. Ça, c'est la métaphore de l'homme-plante qui se retrouve dans les publications à l'époque. Elle est très fréquemment utilisée. Et d'ailleurs, dans sa brochure consacrée aux cités-jardins, publiée en 1905, Émile Chesson, qui est donc ingénieur et qui a dirigé les usines du Creusot dans les années 70 et qui a cofondé le musée social, écrit, là je cite un passage qui est très représentatif de ce discours urbaphobe: l'homme a été comparé avec raison à un arbre qui plonge ses racines dans le sol. Le jour où il quitte son village pour la ville, il souffre comme un des pauvres arbres déracinés qu'on essaie de transplanter sur nos boulevards et qui vont y jaunir tristement, puis y mourir, ayant la nostalgie de la forêt natale et lentement empoisonnée par un air chargé de miasmes et par les sucs meurtriers du sous-sol urbain. La terre joue, donc il rappelle évidemment le rôle de la terre, qui joue un rôle essentiel. C'est elle qui nous fournit notre nourriture, notre vêtement, notre demeure. C'est elle qui soutient nos pas et qui recevra notre dépouille mortelle. De ses sillons et de ses prairies se dégagent des influences fortifiantes et saines qui pacifient les populations rurales. Entre l'homme et la terre, il existe des liens étroits et mystérieux, des rapports intimes et profonds. Alors ce citadin complètement dévitalisé et malade a un besoin impérieux de nature. en contrepoint de cet environnement artificiel, la nature donc apparaît comme l'élément salvateur, vital. Donc dans ce contexte, la Cité Jardin apparaît, entre complètement en résonance avec la défense des principes hygiénistes, puisque son aménagement, selon les commentateurs qui sont séduits par le concept, son aménagement réintroduit dans les zones habitées les éléments essentiels à la vie de l'homme. Alors ce qu'on pourrait appeler les néo-aéristes y trouvent leur compte, eux qui prônent la nécessaire circulation de l'air porteur de miasmes et donc de contagion. On oriente, la Cité-Jardin pourra permettre de bien orienter les habitations, et donc l'air il pourra circuler plus facilement. Par ailleurs, ils sont séduits par l'argument de ces fumées polluantes qui ne seront plus présentes grâce à l'installation de ce système électrique proposé par Howard. La Cité-Jardin séduit également les tenants donc des théories de l'ensoleillement, comme je vous renvoie aux théories d'Augustin Rey. À cette époque, donc, les rayons du soleil sont vraiment perçus comme germicides. Et Georges Riesler, donc, qui est un industriel d'origine alsacienne, qui fait partie de ces personnalités du musée social, est également, dans une conférence justement sur les cités-jardins données en 1909, s'étonne d'ailleurs que, je cite, « comment n'avoir pas pensé que ce soleil, dont la bienfaisante action est indispensable aux végétaux, devait avoir aussi pour la plante humaine une importance primordiale ?» Alors, donc, dans le discours hygiéniste de l'époque, la nature est appréhendée par les éléments donc, de l'air, du soleil, mais également par la végétation, sous toutes ses formes, et elle se trouve incluse en France dans un terme plus général, que terme d'espace libre, qui est la traduction, encore une fois, de l'anglais, open spaces. Alors, l'importation du modèle, en fait, de Cité-Jardin en France coïncide avec la montée en puissance d'une réflexion sur l'introduction, en fait, de l'espace libre et donc de l'élément végétal comme composant du plan de ville et de l'aménagement urbain. Alors, en opposition à la minéralité, à l'artificialité de la ville, l'élément végétal est paré évidemment de multiples avantages d'ordre moral et physique. L'architecte et ingénieur civil Eugène Hénard vante ses vertus apaisantes et déclare en 1905 « La présence de massifs de verdure provoque chez les agités, les plus enfiévrés de la vie moderne, une détente physique et morale qu'on ne saurait nier. C'est un élément incontestable de calme et d'apaisement. » Donc la fréquentation des parcs et des jardins, ou le jardinage, détourne par ailleurs le citadin des cabarets et des lieux de débauche, où il s'alcoolise et se pervertit. D'ailleurs, où les ouvriers iront passer leur repos hebdomadaire, parce que le repos hebdomadaire est instauré par la loi du 13 juillet 1906, s'ils ne trouvent pas de parc ou de jardin près de chez eux. Alors, le même Georges Riesler, dans la même conférence, s'empresse de répondre, ils iront tout simplement au cabaret où se trouveront réunis les deux pourvoyeurs de la tuberculose, l'alcoolisme et l'air empesté. Le jardinage est également présenté comme une alternative salutaire à l'ouvrier qui pourra également se constituer un complément de salaire si on lui laisse la jouissance d'un lopin de terre. Ce sont les principes défendus à l'époque et même depuis la fin du XIXe siècle par le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement terrianiste, animé par l'abbé Lemire, qui est fondateur de la ligue du coin de terre du foyer, donc qui défend ces avantages de posséder un lopin de terre. Lorsque Benoît Lévy fait connaître la Cité-Jardin en 1904, donc le débat sur les espaces libres mobilise toute l'action du secteur associatif français, surtout parisiens, qui militent pour la transformation des terrains libérés par le déclassement des fortifications de Paris en jardins et parcs et en terrains de sport. D'ailleurs, ce débat a été lancé dans les années 80 au lendemain de la défaite française. On stigmatise à cette occasion le retard français en matière d'espace libre. Alors, ce retard est étayé par des études comparatives. C'est le fameux plan de Paris sur lequel sont reportées les surfaces de parcs et de jardins à Londres et à Berlin. Plan élaboré par Eugène Hénard. Et donc, les associations, et en particulier le musée social et sa section d'hygiène urbaine et rurale, organisent une importante campagne à l'occasion des élections municipales parisiennes de mai 1908. Et à cette occasion, une affiche est tirée à 12 000 exemplaires. Et elle est placardée dans les lieux publics, notamment sur la façade des magasins du Fayel. Alors cet épisode est très important puisqu'il constitue l'un des moments fondateurs de l'urbanisme français. Il a posé en des termes très concrets la question de l'aménagement rationnel des villes, de la planification urbaine, en soulevant le problème de la question de constitution des réserves foncières, la répartition pertinente des espaces libres et des zones construites, en posant également la question de l'échelle d'intervention dans le projet urbain. Donc ce débat a été l'occasion de réfléchir à la place place de la nature dans la ville et dans l'aménagement donc, des agglomérations. Et en plein débat sur le devenir des terrains de l'enceinte, l'ouvrage donc, très important de Jean-Claude Nicolas Forestier, qui paraît en 1906, Grande ville et système de parcs, va enrichir, théoriser la place de la nature dans la ville, qui est envisagée comme un élément vraiment structurant de l'extension urbaine. Ce milieu réformateur français est également très réceptif à la Cité Jardin, puisque à cette époque-là, on traduit, donc dans les années 1900-1910, on traduit donc les idées du mouvement Arts and Crafts, donc les ouvrages de John Ruskin, mais également de William Morris. On traduit également l'œuvre de Camille Ossit, donc qui va urbaniste autrichien qui va avoir une influence très importante sur les architectes anglais et français. Donc voilà, il y a tout un contexte très, très favorable pour accueillir la Cité Jardin. C'est à cette époque-là aussi qu'on prend conscience de la qualité esthétique des paysages naturels, défendue par l'une des associations qui a participé très activement à la campagne sur les espaces libres. C'est la Société pour la protection des paysages de France, qui est fondée en 1901 et dont l'action va aboutir 5 ans après sa création, donc en 1906, à la loi sur la protection des sites pittoresques, historiques ou légendaires et des monuments naturels, qui a toujours d'ailleurs... qui n'a pas été appliquée en tant que telle au début, mais qui a été modifiée en 1930, et elle est toujours d'actualité. Alors, si l'enthousiasme de Benoît Lévy, suscité par la découverte du modèle anglais, est partagé par la plupart des tenants de la réforme urbaine, des réserves sont quand même formulées très tôt, même dès 1905, par les premiers convertis. Plusieurs émettent rapidement des doutes sur la force d'attraction de l'aimant formé par la Garden City. Charles Gide, donc le professeur de Benoît Lévy qui préface son ouvrage La Cité Jardin, et Alexandre Ribaud remettent en cause l'attractivité de l'aimant Cité Jardin auprès des ouvriers. Dans la préface à La Cité Jardin, Charles Gide fait remarquer, je cite, qu'il n'est pas sûr que tous les hommes fussent disposés à rentrer dans le jardin d'Éden, même si l'archange qui le garde en rouvrait les portes. Et 3 ans plus tard, il écrit qu'il n'est pas non plus certain que l'idéal ruskinien proposé dans le modèle de la Garden City, reposant essentiellement sur les avantages esthétiques et pittoresques, incite les ouvriers à quitter la ville. Même scepticisme chez Alexandre Ribaud, qui en 1908, lors d'une réunion organisée à la Sorbonne, justement lors de la campagne sur les espaces libres, indique « On nous fait voir ces cités-jardins qui sont le paradis terrestre restauré, donner à l'ouvrier non seulement la maison, mais encore ce qui en est l'accessoire désormais, ce qui est la santé pour les enfants, le jardin, oui, cela est possible, cela est nécessaire, mais croire que nous allons arrêter tout à coup ce mouvement qui porte les populations vers Paris, vers Londres, vers New York, j'avoue que je suis un peu sceptique. » Scepticisme partagé également par Émile Chesson, qui quand même qui est séduit par le concept, mais qui n'est pas convaincu que les industriels vont déménager dans ces nouvelles entités qui vont déménager en race campagne. Et Jules Méline, pourtant fervent défenseur du retour à la terre, n'est pas non plus convaincu de cet aimant formé par la Garden City. Alors, ces critiques exprimées dès 1904-1905 assez tôt expliquent l'abandon assez rapide du modèle howardien de la cité-jardin autosuffisante par les tenants de la réforme urbaine. On va plutôt s'orienter vers la pratique française, tout au moins, vers ce qu'on appelle la banlieue jardin sur le modèle d'Hampstead Garden Suburb. C'est encore une réalisation anglaise qui est à peu près contemporaine de Letchworth. En fait, c'est un lotissement privé qui est aménagé à partir de 1905 sur les plans toujours de Raymond Unwin et de Barry Parker, à l'initiative donc d'Henrietta Barnett. Donc, dans le cadre de la réflexion sur les modalités de réorganisation et d'extension des grandes villes, la banlieue jardin telle qu'elle a été conçue à Hampstead fournit une réponse plus réaliste que la cité jardin. La notion d'autosuffisance et de semble trop ambitieuse, irréaliste aux réformateurs français. Donc, juste avant la guerre, le concept howardien est définitivement abandonné dans les réunions sur où la réforme urbaine est débattue. On indique que la solution du problème n'est pas. On ne pense plus comme, je cite Georges Ressler, on ne pense plus comme Howard que la solution du problème est de créer une ville indépendante. On cherche au contraire à se rapprocher des grandes villes en reliant le nouveau groupe au grand centre par de puissants et fréquents moyens de transport. Donc, alors, les critiques adressées au modèle howardien n'impliquent pas l'abandon quand même des principes préconisés par le Garden City Movement, mais on va s'orienter, et c'est l'objet de ma troisième partie, sur la réalisation de banlieues jardins. Donc, dernière partie, les cités-jardins à la française ou la création d'un paysage caractéristique. Alors, les cités-jardins mises en œuvre dans le cadre de l'action de l'Office public d'habitation à bon marché du département de la Seine sont présentées dans l'historiographie à juste titre comme les plus représentatives de la cité-jardin à la française. Pourquoi? Parce que cela s'explique par l'ampleur des réalisations et par l'action d'Henri Sellier, qui s'est entouré d'architectes compétents et reconnus. Donc, cela explique que la cité-jardin française soit associée à ces réalisations. Alors, d'autres cités-jardins ont été aménagées, hein, dont les plus connues sont la cité-jardin du Chemin Vert à Reims, citons encore les jardins Ungemar à Strasbourg ou la cité Ternier dans le Nord. Et d'ailleurs, le terme de cité-jardin a eu un succès, a eu beaucoup de succès, même si on abandonnait évidemment les principes d'autosuffisance. Ce terme n'étant pas protégé, beaucoup d'opérations publiques et privées ont été désignées sous ce terme sans véritablement correspondre à la définition. Alors, les exemples que je vais présenter sont largement issus du corpus, donc de cette à peu près quinzaine de cités-jardins aménagées par l'Office, et donc parce qu'elles forment un ensemble cohérent. Alors, l'Office public des habitations à bon marché du département de la Seine, je l'appellerai Office parce que c'est un petit peu long, est créé en vertu de la loi du 18 juillet 1915, et en 1916, Henri Sellier, qui est alors conseiller général socialiste de Puteaux, en devient l'administrateur délégué. Alors, Henri Sellier a mis très tôt la question de l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière et de l'aménagement des banlieues au cœur de son combat politique. Bon, il est aussi connu pour avoir été ministre de la Santé sous le gouvernement Blum. Donc, il se tient au courant à cette époque des réalisations étrangères en faisant des voyages d'études, donc en allant en Angleterre, en participant à des congrès internationaux ou en lisant les ouvrages de Benoît Lévy. Par ailleurs, il maîtrise très bien l'anglais et l'allemand, et il traduit même, on l'a découvert il y a peu de temps, l'ouvrage de Raymond Hanouin, Town Planning in Practice. Alors, c'est sous son impulsion qu'est lancé, donc, juste avant la Première Guerre mondiale, le programme des cités-jardins du Grand Paris. Alors, elles sont baptisées ainsi dans une séance du conseil d'administration du 18 février 1918, de l'Office. Donc, Sellier est marqué par les exemples étrangers, en particulier donc, la cité-jardin anglaise, mais il sait prendre ses distances et avoir un regard critique par rapport à ce concept. Et il recommande à ses architectes en 1919 de, je cite, chercher dans l'élaboration des avant-projets à se dégager des formules américaines de la ligne droite, trop souvent employées dans les lotissements de la banlieue, sans tomber dans l'excès théorique des architectes allemands en ce qui concerne la superstition des vues fermées. Et ils tiendront compte, ces architectes, à la fois des conditions topographiques des terrains, de l'orientation, éclairage, aération, et des règles d'esthétique. Alors, le terme de cité-jardin est conservé, alors même qu'Henri Sellier le revendique, ces réalisations vont davantage relever de la garden suburb sur le modèle d'Homestead. L'acquisition des terrains commence en 1919 et les premiers aménagements datent du début des années 20. Et ces aménagements, d'ailleurs, sont contemporains de l'aménagement de la deuxième cité-jardin anglaise, toujours à l'initiative d'Howard, qui est aménagé dans les années, qui commence, dont l'aménagement commence dans les années 20, et qui se situe en fait entre Londres et à mi-chemin entre Londres et Letchworth. Donc là, on a toujours l'idée d'une cité-jardin autosuffisante. Les Anglais n'ont pas abandonné du moins Howard, ce concept. Mais Welwyn est un peu plus compact et est un peu différent de Letchworth, mais les principaux traits sont là. Alors, ces réalisations anglaises influencent profondément les plans des cités-jardins réalisés par l'Office, qui va utiliser le ressort de ce qu'on appelle le pittoresque. Alors, qu'est-ce que le pittoresque? Alors, je reprendrai volontiers la définition qu'en propose Valérie Perlès dans un ouvrage collectif consacré à la commune du Pré-Saint-Gervais, où a été aménagée d'ailleurs une cité-jardin. Par définition, un paysage pittoresque organisé en tableau résulte d'une combinaison d'éléments choisis pour leur beauté ou leur charme, conforme à un modèle accepté d'harmonie visuelle. Donc, le pittoresque va jouer sur la recherche et la création donc d'effets visuels. C'est un cadre esthétique quasiment imposé par l'Office, et dans ce cadre, l'élément végétal est envisagé comme vraiment une composante de l'aménagement de l'espace. Il s'agit d'un dispositif complexe qui emprunte en fait au baroque son jeu sur les effets de mise en scène et génère pour le coup une forme assez novatrice et très caractéristique. Alors, les plans d'aménagement des cités de jardin de l'Office et puis d'une manière générale des cités jardins se caractérisent par, comme à Letchworth, par la volonté de respecter le site d'implantation et de tirer parti de ces caractéristiques. Ça, on est dans l'influence complètement des idées de site reprises par Unwin dans l'aménagement de Letchworth. D'ailleurs, site dans l'art de bâtir les villes indique pourquoi supprimer à tout prix des inégalités de terrain, détruire des chemins existants et même détourner des cours d'eau afin d'obtenir une banale symétrie. Mieux vaudrait, au contraire, les conserver avec joie pour motiver les brisures dans les artères et d'autres irrégularités. Donc ce principe donc de respect de l'implantation et de la topographie a été appliqué à Letchworth, mais aussi à Homestead et à Welwyn. Le plan a vraiment été conditionné dans ces cités-jardins par la topographie du site. Par exemple, à Letchworth, la présence de trois chaînes, donc ça c'est Welwyn, à déterminer l'emplacement de l'axe central. Donc, quelques exemples. Les architectes de l'Office ont beaucoup, par exemple, joué avec les dénivelés, évidemment, puisqu'il y a de quoi, il y a du potentiel. Alors, ici, on a la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais, aménagée des années 20, aménagée en trois phases, par l'architecte Félix Dumaille. Donc là, voilà, comment tirer parti du terrain en pente en jouant sur le dénivelé. Même chose à la Butte Rouge, qui est à Châtenay-Malabry, qui est aménagée de 1931 à 1940 sur les plans des architectes Basson-Pierre, De Ruté et Sirvin. Et du paysagiste André Rius. Alors, c'est la première fois en fait qu'un paysagiste intervient, est associé à l'élaboration des principales étapes du plan. Alors, ici, le terrain s'étend entre le bois de Verrières et la Nationale, entre un plateau à l'ouest et une cuvette à l'est. Donc, les concepteurs ont su exploiter les potentialités du site en pente en aménageant, par exemple, des escaliers. Donc, la rue à gauche, Lucien, qui s'appelle la rue Lucien R, permet de relier le plateau à la place Simion, qui se trouve à l'est de la cité. Et là, à droite, on a aussi une. On voit donc qu'il y a des jardins qui ont été aménagés sur les pentes de la cité jardin. Donc, au Plessis-Robinson, qui est juste à côté de Châtenay-Malabry, la cité jardin est implantée sur un site pareil, au relief accentué, constitué d'un plateau et d'une partie plus basse, sur laquelle a été aménagée la première tranche de la cité jardin intitulée les lunettes dans les années 20. Donc là, on a une vue du parc, de la cité depuis le parc qui la domine. Alors, à l'instar des principes mis en œuvre dans les cités-jardins anglaises, le plan des cités-jardins de la banlieue parisienne se caractérise par l'aménagement de voies sinueuses desservant les zones résidentielles, qui rappellent en fait la forme des courbes de niveau. Alors, cette disposition présente des avantages économiques puisqu'elle autorise l'alignement d'un plus grand nombre de maisons, mais elle répond également à des considérations esthétiques en ménageant des inflexions par lesquelles la perspective s'interrompt et repart. C'est un dispositif typiquement pittoresque. On retrouve ici donc l'influence de Camille Site, qui défend l'intérêt de la courbe comme dispositif de fermeture de la perspective et de renouvellement du paysage. Donc on a ici les plans des cités-jardins de Cachan, à gauche, qui a été détruite depuis, et de Stein, qui n'a pas été détruite, aménagée. Donc ça, ce sont les premières. C'est typiquement les plans à l'anglaise que l'on retrouve dans les premières cités-jardins. Ici, le plan d'Arcueil-Cachan, dont les maisons aussi ont été détruites, mais puis reconstruites, mais en l'occurrence, ce n'est plus, je crois, ce plan-là, aménagé toujours par Perret d'Ortaille dans les années 20. Alors, les voies ici sont en courbe, en chicane ou en impasse. Vraiment, la mise en œuvre de ce type de voie est une réponse vraiment à une réaction au plan à damier des villes américaines ou des corons ouvriers, tout simplement, et des perses haussmanniennes qui sont à l'époque unanimement décriées. Le plan d'aménagement des cités-jardins se caractérise également par la création de venelles et de cheminements piétonniers qui permettent d'accéder aux espaces libres en cœur d'îlot qui sont occupés par des jardins collectifs ou par des jardins individuels. Alors, ces venelles et ces cheminements piétonniers ajoutent en plus un niveau supplémentaire à la hiérarchisation de la voirie. Dans les plans d'aménagement des cités-jardins, on a une attention très, très importante accordée à cette hiérarchisation. On distingue les axes principaux qui correspondent aux grands axes de circulation, aux voies secondaires de desserte et à ces petits cheminements qui ne peuvent être empruntés donc que par les piétons et qui évoquent un peu voilà, les chemins ruraux, les sentes de la campagne française. En fait, c'est une attention qui est très qui se justifie par la volonté en fait vraiment de mettre en place une véritable cinétique des parcours, hein. Comme le remarque de paysagistes qui se sont intéressés au paysage des cités-jardins. Je cite: « Le pittoresque attache une importance particulière au trajet du spectateur et à la mobilité du paysage perçu. » Alors, l'aménagement pittoresque des cités-jardins s'appuie sur l'élément végétal pour créer des effets visuels. Donc, il utilise une palette d'essences très variée et dispose les éléments à des emplacements stratégiques. On peut jouer sur les contrastes, sur le faussement des rapports d'échelle. Alors, on peut avoir des alignements d'arbres qui soulignent donc les grands axes, comme je viens de le dire. On peut aussi avoir son contraire, c'est-à-dire la mise en scène irrégulière de certains grands sujets isolés qui peuvent venir s'inscrire en fond de perspective d'une minuscule venelle ou au milieu d'une pelouse. Le jeu de contraste peut également être créé par la mise en scène d'un rapport directement entre le bâti et le végétal. Alors, il y a un effet qui peut être recherché, c'est celui d'essayer de mettre en place une proximité ambivalente. Un grand arbre à côté d'une maison qui pourra, ce grand arbre pourra créer l'image d'une nature amie ou un peu plus hostile en faisant apparaître la maison comme fragile dans son environnement. C'est le cas en haut à gauche avec l'exemple de la Courneuve. Les concepteurs ont également beaucoup joué sur les jeux de contraste entre la végétation et la minéralité du bâti, qui permet de générer une harmonie entre les textures, les matières, les couleurs, hein, le vert des plantations confronté à la pierre, qui peut être soit de la meulière, de la brique, du béton, du crépi. Et à Châtenay-Malabry, en bas à gauche, il y a un contraste entre l'enduit ocre rouge des édifices et la tonalité verte des arbres et des pelouses. Alors, dans certains cas, comme à Suresnes, en second plan, la relation avec le bâti est plus intime. On a la végétation grimpante, le lierre, le chèvrefeuille, la glycine, qui donne une patine aux édifices et qui joue sur les effets de dématérialisation, en fait. Alors, à chaque élément végétal correspond un effet. Chaque essence se voit attribuer une dimension symbolique. On peut associer, par exemple, le bouleau à la fragilité ou le sycomore à la force. Cette utilisation de toute une palette d'essences a été une véritable volonté de la part des concepteurs, malgré des budgets serrés. Donc, ces végétaux peuvent générer des contrastes. La mise en scène pittoresque peut jouer des contrastes entre les... en instituant des relations entre les végétaux entre eux. La diversité de la palette ajoutée à des dispositions particulières vient amplifier ces effets de contraste. Donc on a des effets générés par les jeux des couleurs, des fleurs qui ont pu être plantées par les habitants eux-mêmes et les légumes et les fruits des jardins potagers et fruitiers. Autre rôle joué par le végétal, c'est de signifier le statut des espaces, de rendre lisible la structure urbaine. Les alignements d'arbres peuvent ainsi venir marquer les points d'articulation de la trame, comme les carrefours, les places, ou dans certains cas, les avenues, donc même dans quasiment tous les cas, les principales avenues sont marquées par les plantations d'alignement. On trouve, par exemple, à Stein également, une avenue qui se caractérise par la création de terre-pleins centraux enherbés. Donc on a la volonté de souligner les grands axes principaux. Donc l'utilisation du végétal pour donner à voir la hiérarchisation de la trame vière est inspirée évidemment directement de Letchworth, où une attention particulière a été accordée à la voirie qui est végétalisée. Autre révélateur de la structure urbaine, le rôle des haies. Généralement ce sont des haies, en l'occurrence en banlieue parisienne, des haies de Troène, qui joue également ce rôle de délimitation de l'espace entre l'espace public et privé, et qui recrée un alignement sur rue, qui dans un front urbain en fait traditionnel est constitué par l'alignement des façades. Et les haies peuvent également matérialiser les divisions parcellaires. Alors, l'association harmonieuse entre la ville et la nature se traduit également par la volonté de recréer un environnement, un paysage relevant du rural et du campagnard, et donc formellement par l'utilisation de ce qu'on appelait l'architecture pittoresque ou néo-vernaculaire, très en vogue jusque dans l'entre-deux-guerres et qui s'inscrit donc dans la redécouverte du patrimoine bâti des provinces françaises et qui a aussi un rôle d'intégration, de favoriser l'intégration des ruraux déracinés. Alors ce courant, évidemment, est depuis longtemps à l'œuvre en Angleterre et mis à l'honneur par le mouvement Arts and Crafts. Donc c'est une volonté d'Henri Sellier, d'ailleurs, qui invite ces architectes en 1919 à être, je cite, attentifs à la recherche de types d'immeubles cadrant avec les besoins locaux. Ils devront être de nature à éviter l'impression d'uniformité et de monotonie. Ils devront être inspirés par les classiques des vieux immeubles de l'Île-de-France, types qui seront adaptés aux conditions d'hygiène et du confort moderne. Donc, dans les premières cités jardins de l'Office, les concepteurs retiennent de ce type d'architecture différents éléments types qu'ils combinent pour créer des effets visuels et rompre avec la monotonie. Donc, on en a des exemples ici dans différentes cités-jardins. Alors, les nécessités économiques, c'est-à-dire produire pour un moindre coût, imposent une production de masse et donc une utilisation raisonnable des matériaux. Et ces contraintes aboutissent donc à une simplification des formes de l'architecture néo-régionaliste. Donc, cette écriture architecturale, comme à Duny, Cachan, Suresnes ou Gennevilliers, utilise en fait les motifs les plus représentatifs de l'architecture régionale, un petit peu idéalisée, c'est-à-dire les toitures à versant dissymétrique, les grands pignons, les croupes ou les demi-croupes, ou encore les lucarnes. Dans la plupart des cités jardins, on ne s'est pas inspiré du patrimoine local comme à Letchworth et comme le préconisait Sellier, qui a voulu même en 1937 que les toits en tuiles à angles très aigus avec des noues et des coupures multiples tendaient plutôt à se rapprocher de l'architecture anglo-normande, donc en banlieue parisienne. On a utilisé plutôt les ressorts de l'écriture stylisée néo-normande. Alors, la recréation d'un paysage rural passe par l'utilisation d'un vocabulaire architectural néo-régionaliste, mais aussi par une disposition particulière du bâti qui a été importée directement d'Angleterre, c'est le close et la place de village. Alors, le close, tel qu'il a été mis en œuvre par Unwin à Letchworth, puis perfectionné à Hampstead et à Welwyn, est un groupement de maisons autour d'un cul-de-sac ou d'une placette qui est greffée à une rue. Donc, en fait, il s'agit d'une variation telle qu'il de la cour de ferme. Alors, ce principe a été mis en place aussi à Welwyn, perfectionné même, donc à Guess and Walk et au Quadrangle, donc les mêmes principes, et repris en France, dans les cités-jardins, par exemple, à Drancy et à Nanterre. Plusieurs closes également ont été aménagées dans les cités-jardins de l'Office, comme à Stain ou à Duny. Alors, à partir des années 30, deux facteurs pèsent sur la transformation du paysage rural qui avait été voulu dans les années 20 par les concepteurs. Pour des raisons économiques, en fait, le rapport entre le nombre de logements individuels et de logements en immeuble s'inverse. Et parce qu'il faut loger davantage de personnes à un minimum de coût, les réalisations comptent beaucoup moins de maisons individuelles. Mais là, dès les premières cités-jardins, on a pas mal de logements collectifs. Deuxième facteur, donc, l'influence du mouvement moderne sur l'architecture des cités-jardins. Les cités-jardins construites à partir des années 30 ne renvoient plus vraiment à un paysage rustique, le style vernaculaire étant vraiment exclu du catalogue des architectes modernes qui se réclament de ce mouvement. Et c'est ce choix esthétique donc, du mouvement moderne qui repose sur l'épuration plutôt des volumes, la prédominance des lignes géométriques dans les baies horizontales, le jeu sur les rapports plein-vide. Alors, ce choix esthétique n'exclut pas l'aménagement de voies sinueuses qui caractérise l'urbanisme pittoresque. Par exemple, la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais, où on a conçu un premier plan masse dans les années 20 et on a le même dans les années 50. Le logement collectif n'a pas fondamentalement changé la trame vière qui reste la même. Avec l'aménagement de la cité de la Muette à Drancy, par contre, qu'Henri Sellier qualifie encore de cité-jardin dans les années 30, réalisé sur les plans des architectes Baudouin et Lodz à partir de 1931, le pittoresque est définitivement oublié. L'influence des idées de Le Corbusier sur la cité radieuse a raison des aménagements et de l'architecture pittoresque. Les bars et les tours, premiers gratte-ciel de la région parisienne, sont disposés dans la verdure. Les relations ville-nature relèvent alors d'une autre conception. qui répondent aux exigences de la modernité et de l'urbanisme progressiste représenté, selon Françoise Choret, par Le Corbusier, qui, dans son ouvrage « Vers une architecture » publié en 1923, indique « La nature a été prise en considération. La ville, au lieu de devenir un pierrier impitoyable, est un grand parc. L'agglomération urbaine est traitée en ville verte. Soleil, espace, nature, les immeubles sont posés dans la ville entière. Les immeubles sont posés dans la ville derrière la dentelle d'arbres. Le pacte est signé avec la nature. » Donc là, on passe d'une cité horizontale avec des plans masses qui disposaient les zones résidentielles et les maisons individuelles horizontalement, puisque la hauteur était assez, somme toute, limitée, à une cité-jardin verticale. C'est une expression utilisée par André Lursa pour qualifier la cité de la muette à Drancy. Donc la cité horizontale est oubliée. Alors, ma conclusion. Transposition partielle du modèle howardien, la cité-jardin à la française, qui n'a pas rompu les liens avec la grande ville, a tenté de créer un paysage caractéristique qui retient de la ville sa structure, constituée d'îlots d'habitation, organisés autour de points d'articulation et sa trame vière hiérarchisée, mais qui retient de la ville également ses équipements, et qui envisage l'intégration de la nature selon une approche multiscalaire et multiforme, puisque la nature est ici prise dans l'acception large du terme, qui renvoie à la fois à la topographie, aux essences végétales et à la dimension rurale de la campagne et des villages français. Alors, les concepteurs des cités-jardins du Grand Paris ont visiblement tenu les promesses de cet ambitieux projet au service des catégories sociales les plus défavorisées. Comme le montrent les cités-jardins de la Butte Rouge ou du Pré-Saint-Gervais, l'évolution des formes architecturales plus anguleuses et géométriques prônées par le mouvement moderne, mais aussi des nécessités économiques qui imposent le choix du collectif, n'a pas ou peu entamé l'équilibre trouvé entre la nature toujours omniprésente et la ville. Alors, résistant à l'épreuve des réalisations, toutes n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Certaines ont subi des évolutions parfois irréversibles, notamment à partir des années 60, allant de la démolition pure et simple, liée aux impératifs de densification, des évolutions liées à la lente dénaturation par modification de la typologie bâtie d'origine, par disparition des potagers, des cœurs d'îlots au profit de jardins d'agrément et parfois de parcs de stationnement. Modification des essences végétales d'origine, puisque de toute façon le patrimoine végétal est par nature très, très fragile. Il n'en reste pas moins que les cités-jardins ont intégré la mémoire collective. Elles sont, selon Ginette Batty-Tornikian, donc sociologue qui a bien étudié la question des cités-jardins, je cite, « une mémoire concrète pour le mouvement ouvrier, sensible à cette impression de rupture avec le tissu environnant ». Et comme l'ont montré les nombreux exemples de cités-jardins aménagées en Seine-Saint-Denis, elles font partie de la mémoire du département qui en a fait un axe majeur de valorisation de son patrimoine. Alors, ce modèle à la fois urbain et social entre par ailleurs particulièrement en résonance avec les problématiques actuelles liées au développement durable et aux normes de haute qualité environnementale. Et posant la question de la relation de l'habitation de l'homme avec la nature, la cité-jardin a également tenté de penser les relations de l'homme avec l'homme dans une volonté de créer les conditions d'un vivre ensemble. Voilà.